Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la RDC au Conseil de sécurité, bilan humain alarmant. James Swan alerte sur 3632 civils tués et la menace Ebola en Ituri. La RDC, quant à elle, appelle au retrait des forces rwandaises. L'ambassadeur dénonce les massacres des ADF M23 et les déplacements massifs des populations. Pendant ces temps, les États-Unis annoncent les sanctions contre les réseaux liés au M23. Washington met en garde les acteurs qui sabotent la paix en RDC. La France appelle au respect du cessez-le-feu et dénonce l'usage dangereux des drones dans la région des Grands Lacs. La RDC saisit la Cour internationale de justice. Kinshasa accuse le Rwanda de violation des conventions internationales. Ituri, le nouveau gouverneur militaire en visite à la MONUSCO. Le général Gabi Kassongo, qui est l'invité de ce journal, échange sur les défis sécuritaires et la coopération avec les FARDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal parlé du week-end. Situation de la République démocratique du Congo au cœur de la 10185e séance du Conseil de sécurité sur un bilan alarmant. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, James Swan, a alerté sur la situation sécuritaire alarmante. Il a avancé le bilan des 632 civils tués au Nord Kivu et en Ituri depuis le 19 mars de cette année. Une conséquence de la persistance des combats dans cette partie de la RDC, a-t-il souligné. Et cela, il faut ajouter la montée des cas de maladie à virus Ebola en Ituri et aux environs qui vient encore une fois fragiliser une population déjà amortie par la guerre, a-t-il souligné. Écoutez à ce sujet les bilans de cette situation peu élogieuse de la République démocratique du Congo tracée par le chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité. James Swan.
La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure complexe, volatile et dévastatrice pour les populations. Des combats intenses se sont poursuivis entre l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, soutenu par les forces de défense rwandaises, et avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, et dans certaines localités, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les principales zones de conflit de ces récents affrontements ont été 1. Rubaya, au nord Kivu, un important centre minier. 2. Les environs de Rutshuru, où des combats ont opposé l'AFC M23 aux FDLR et à leurs alliés. Et 3. Les hauts plateaux du sud Kivu, où les FARDC et leurs alliés affrontent l'AFC M23 et ses alliés. Les affrontements dans ces zones ont continué d'impliquer l'emploi des drones offensifs et d'armements lourds qui ont gravement intensifié les risques sur les civils ainsi que sur les infrastructures. Conformément à leurs engagements, l'AFC M23 s'est partiellement retiré de certaines localités des territoires de Lubero et de Walikale, ainsi que de certaines zones du sud Kivu, notamment d'une partie de la plaine de la Rusizi dans le territoire d'Uvira. Le groupe poursuit néanmoins la consolidation de structures administratives parallèles dans les zones sous son contrôle.
L'ambassadeur de la RDC annonce lui aussi la mort des centaines de Congolais par les éléments des ADF M23. Il note également des déplacements massifs des populations fuyant la guerre. Il appelle ainsi au retrait sans condition des forces rwandaises du territoire congolais et la mise en application du cessez-le-feu tel que les stipule la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Zenon Mukongongai, représentant de la République démocratique du Congo.
Sur le terrain, cette coalition M23-RDF continue d'occuper des localités congolaises, d'y établir des administrations parallèles et de brandir la menace de nouvelles conquêtes militaires. Les conséquences pour la population civile sont dramatiques. Des centaines de civils sont tués au quotidien, dont des femmes et des enfants. Des millions de personnes ont été déplacées et des violations graves et massives des droits humains continuent d'être documentées. Dans ce contexte, ma délégation appelle à la mise en œuvre intégrale et sans condition application de la résolution 2773-2025 notamment, en ce qu'elle exige le retrait sans condition de la force de défense rwandaise du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Le rôle central de la MONUSCO, ma délégation, insiste sur la nécessité de garantir la pleine liberté de mouvement de la MONUSCO et la mise à disposition de ressources adéquates pour lui permettre d'exercer pleinement son mandat.
Pour leur part, les États-Unis d'Amérique mettent en garde contre tous ceux qui ne respectent pas les engagements pris en vue de parvenir à une paix durable. Plus d'excuses, a martelé son représentant au Conseil de sécurité, car des sanctions tombent déjà. Il a donné le tout dernier exemple en date. C'est un réseau qui travaillait en collaboration avec les M23 et qui a été sanctionné. Ce groupe sortait illégalement des minerais de la RDC vers le Rwanda. Des précisions avec Mossad Boulos, conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique et le Moyen-Orient.
En dépit des progrès, les partis continuent à ne pas honorer leurs obligations. La RDC n'a pas honoré ses obligations pour la neutralisation des FDLR, en tout cas dans les zones contrôlées. Dans le même temps, le Rwanda n'a pas honoré ses engagements que des engagements des forces de défense du Rwanda. Il continue de soutenir les M23. Des progrès sur ces deux volets sont nécessaires depuis très longtemps et les excuses ne sont plus acceptables, les retards non plus. Comme nous l'avons prouvé, les États-Unis s'assureront que ceux qui minent la paix dans les RDC rendent des comptes. En mars, par exemple, nous avons sanctionné les RDF pour leur soutien, leur formation et leur combat actif aux côtés des M23. Et hier, nous avons mis sous sanction un réseau travaillant en coordination avec l'M23 afin de faire sortir illégalement des minerais de l'RDC vers le Rwanda. Et notre message au parti est clair. Cessez cette quête d'une solution militaire à ce conflit, une quête trop dangereuse, et respectez le cadre convenu pour la paix. Toute inaction, toute obstruction supplémentaire de la part des partis se soldera par des mesures de riposte supplémentaires.
La France, qui reconnaît quelques progrès dans ce conflit, appelle tout de même les partis à respecter le cessez-le-feu. Son représentant au Conseil de sécurité dénonce la poursuite des combats dans la région des Grands Lacs. Il s'inquiète aussi de la dangerosité de l'utilisation des drones dans les combats, puisqu'un agent de l'UNICEF a perdu la vie à Goma à la suite de l'emploi de ses armes. Suivez Jérôme Bonafont, représentant de la France.
Il y a un an, nous nous réunissions alors qu'un accord de paix venait d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda grâce à la médiation américaine. Des progrès ont été faits, notamment avec l'appui du Qatar, du Togo, de l'Union africaine, dont l'action de médiation et de facilitation est centrale. L'application de cet accord doit rester notre ligne politique d'horizon pour une paix dans les Grands Lacs. J'insisterai sur trois points. Tout d'abord, le cessez-le-feu est plus que jamais une priorité pour protéger les civils. Nous appelons les partis à le respecter effectivement. La poursuite des combats menace les populations. La recrudescence des attaques de drones est inquiétante. Une de nos compatriotes travaillant pour l'UNICEF en a été victime à Goma. Nous appelons à la transparence sur les responsabilités de cette attaque. Nous sommes également préoccupés par celle menée récemment par la FCM-23 contre l'aéroport de Kisangani, à 400 km des lignes de front. Un cessez-le-feu effectif est indispensable pour protéger les populations des combats et donner une chance à la paix. Dans le contexte dramatique de la résurgence d'Ebola, nous soutenons la réponse des autorités congolaises aux côtés de l'OMS et des agences humanitaires. La France a débloqué une aide d'urgence. La reprise des vols humanitaires via l'aéroport de Goma est d'autant plus primordiale. Nous continuerons de nous mobiliser aux côtés des médiateurs en ce sens pour trouver une solution pragmatique ad hoc.
C'est un dossier réalisé par Lievin Mwingavubu. Autre actualité, vous avez certainement lu hier vendredi sur plusieurs médias que Kinshasa a saisi officiellement la Cour internationale de la justice contre le Rwanda. Eh bien, le représentant de la RDC au Conseil de sécurité a justement annoncé cette nouvelle procédure engagée par Kinshasa hier vendredi au cours de la réunion sur la situation de la République démocratique du Congo. La RDC accuse le Rwanda de violation de plusieurs conventions internationales. Ambassadeur Zeno Mukongongai.
La République démocratique du Congo informe le Conseil qu'elle a déposé ce jour une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice contre la République du Rwanda. Par cette procédure, la République démocratique du Congo demande à la Cour de constater la responsabilité internationale du Rwanda pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes des discriminations raciales, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que de la Convention contre la torture. La République démocratique du Congo demande aussi la cessation des faits internationalement illicites, des garanties de non-répétition et une réparation intégrale à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux victimes.
Place à présent à cette bonne nouvelle pour plus de 200 patients de l'hôpital de Kavumu. Ils retrouvent la liberté cette semaine. Ils étaient retenus depuis plusieurs mois dans cet établissement du Sud Kivu pour non-paiement de leurs factures. Ces femmes et enfants, durement affectés par la guerre dans l'Est de la RDC, ont bénéficié d'un acte de charité du responsable de la Fondation Joseph Kazibaziba. Ce bienfaiteur a accepté de régler leurs frais médicaux. Une action saluée par les bénéficiaires. Le point avec Ronéline Tibonera.
À une vingtaine de kilomètres de Bukavu, le membre de la Fondation Joseph Kazibaziba se sont rendus à l'hôpital de Kavumu pour apporter un soulagement aux patients impactés par les conséquences de la guerre du M23. Dans cet établissement, des centaines de malades, femmes et enfants guéris de diverses pathologies étaient contraints de rester hospitalisés faute de moyens. Retenus dans des conditions difficiles, certaines femmes voyaient leurs enfants tomber malades, aggravant une situation déjà fragile. Face à cette souffrance, Joseph Kazibaziba a décidé de libérer ses familles de ses jours. Pour les bénéficiaires et leurs proches, c'est un véritable soulagement. Beaucoup rappellent que la crise économique, conséquence directe de la guerre, rend la vie de plus en plus précaire. La majorité de la population, dépendant des activités champêtres, n'en peut plus, car les zones autour des Kavumu sont devenues trop risquées, ajoutent des sources de la société civile. Les affrontements quasi réguliers entre le Wazalendo et les combattants du M23 continuent d'exposer la population, aggravant l'urgence sanitaire et accentuant une situation économique déjà délétère.
L'actualité, c'est aussi les résultats de la session ordinaire de l'examen d'État qui sont attendus ce samedi à travers le pays, selon des sources proches du ministère de l'Éducation nationale. Les mêmes sources précisent que seuls les résultats des lauréats de chaque section seront disponibles après une séance de délibération. À Radio Capi, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza Sefou, a invité la communauté à accueillir ses résultats avec sportivité. Je vous rappelle par ailleurs que plusieurs candidats finalistes vivant dans des zones de conflit dans l'est de la RDC ont été sécurisés par des casques bleus de la MONUSCO en coordination avec les FARDC. C'est le cas de l'Ituri où les troupes ont été renforcées autour de plusieurs centres de passation de l'examen d'État. Des dispositifs sécuritaires ont été déployés notamment à Kimbanseke, Karesta et Drodro, afin de permettre aux élèves finalistes de composer ces épreuves dans un environnement sûr et serein. Le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO, donne plus de détails au micro de Marc Marofimbo.
Les équipes de la MONUSCO ont maintenu une présence visible autour des centres d'examen, effectué des patrouilles de surveillance et travaillé en étroite coordination avec les autorités scolaires et les FADC afin de prévenir tout incident. Dans plusieurs localités, les évaluations menées sur le terrain ont confirmé une situation calme et stable, permettant aux élèves de composer sans perturbation. Cette présence a rassuré les élèves, les enseignants et les parents, tout en contribuant à garantir l'accès à l'éducation malgré les défis sécuritaires. À travers ces activités, la MONUSCO réaffirme son engagement à protéger les civils et à soutenir les communautés dans les zones affectées par l'insécurité.
Puisque nous parlons d'élèves, sachez que face à la montée de l'insalubrité à Kinshasa, certains d'entre eux ont été sensibilisés à choisir des métiers qui favorisent la protection de l'environnement et à être des éco-citoyens. Ce message a été lancé au cours d'une matinée d'information organisée hier vendredi à l'Institut national de recherche biomédicale INERBE par l'ICEBEL entre ciel et terre. Les détails avec Joël Ouéti.
Réunis dans l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale, les intervenants à cette journée d'information ont éveillé la conscience des élèves sur les enjeux environnementaux actuels. Eric Mukuna, administrateur, directeur des études et de la communication, revient sur les objectifs poursuivis par cette activité.
Donc l'objectif aussi, c'était vraiment de leur montrer qu'on va faire un pont entre ce qu'ils font et effectivement le monde du travail. Donc ça, c'est au niveau de la première phase. La deuxième phase étant des modules de formation sur l'environnement, donc pour en faire des éco-ambassadeurs. d'or.
Participante à cette activité, Justina Meta, élève au CPS Massina, se dit satisfaite et appelle le jeune comme elle à rêver plus grand.
Première fois de pouvoir vivre une telle expérience, j'ai pu comprendre trop de choses. Donc voilà. Je dirais aux jeunes comme moi de ne pas se limiter à ce qu'ils voient.
Retenez que cette activité a permis aux élèves d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat ainsi que d'acquérir des connaissances nécessaires pour être le protecteur de l'environnement dans n'importe quel domaine de travail.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé vendredi 26 juin à Washington un accord cadre avec pour objectif affiché d'ouvrir la voie à une paix et une sécurité durable. Israël assure que son armée restera au Liban jusqu'au désarmement du Hezbollah pro-iranien.
L'invité.
Le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri multiplie les prises de contact avec les partenaires engagés dans la stabilité de la province. Jeudi 25 juin 2026, le général Gabi Kasongo a visité les installations de la MONUSCO au camp d'Oromo à Bunia afin de s'imprégner de capacités opérationnelles de la mission et d'échanger sur les principaux défis sécuritaires. Quels enseignements tire-t-il de cette visite et comment entend-il renforcer la coopération entre la MONUSCO et les FARDC? Il répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
C'est votre toute première visite donc depuis votre prise de fonction en Ituri. Et là, vous venez ce jeudi de visiter les installations de casque bleu de la MONUSCO. Quelles sont vos premières impressions après cette visite et échange avec les responsables militaires des casques bleus, pardon?
Je suis venu en visite de prise de contact avec tous les acteurs engagés dans les efforts pour la protection des populations civiles, pour la restauration rapide et durable de la paix, ainsi que pour le développement socio-économique. Je viens d'être accueilli dans ce cadre pour comprendre comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent et comment ils sont déployés sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri.
Dans le contexte actuel de l'état de siège, comment vous comptez renforcer ou bonifier cette collaboration entre le gouvernement provincial, les FARDC et les casques bleus pour faire face justement aux défis sécuritaires en Ituri?
Comme je venais de le dire tout à l'heure lors de ma déclaration, mon engagement demeure indéfectible pour travailler ensemble avec les partenaires au service de la paix.
Quels sont vos principaux axes, si vous voulez, de coopération que vous souhaitez bien privilégier avec la MONUSCO pour accélérer le retour de la population? Comme vous l'avez dit, il y a encore des déplacés qui sont sur le site. Comment vous pensez, quels sont vos axes prioritaires par rapport au rétablissement de la paix en Ituri?
Notre obligation, c'est de restaurer la paix par tous les moyens. Je dis bien des moyens légaux. Alors, pour y parvenir, nous allons par une approche que je peux appeler l'approche holistique, là où il y a des lignes. Il y a une ligne opérationnelle où on peut mener les opérations militaires proprement dites. Il y a une ligne de réconciliation de la population, c'est-à-dire toutes les communautés, les 21 communautés, nous avons le devoir de les réconcilier. Or, dans le cadre de la mission des Nations Unies, nous venons de voir tout à l'heure avec l'air exposé et aussi dans le cadre de protection de la population civile, ils participent aussi à la réconciliation des communautés. Ils ont organisé bien des choses, par exemple l'organisation des formations, l'organisation des activités sportives, les activités agricoles et de l'élevage, tout ça pour favoriser le vouloir vivre collectif.
Et votre message à la population pour terminer notre entretien?
Je suis venu dans l'Ituri pour travailler comme gouverneur militaire de la province de l'Ituri et je demande à tous les Ituriens, femmes, hommes et enfants, qu'ils viennent qu'on travaille main dans la main pour chercher à créer les conditions favorables au retour de la paix durable.
C'est l'Ebola qui continue à sévir. Peut-être vous allez placer un mot dans le cadre de la collaboration et appuyer les autorités sanitaires pour éradiquer cette épidémie dans l'Ituri, l'épicentre d'ailleurs.
Pour l'Ebola, nous avons dit et nous ne cessons jamais de le dire, nous voulons que la population puisse s'approprier elle-même
de cette lutte contre ces maudits virus d'Ebola. Si la population fait cette lutte son affaire, nous avons quelques jours pour bouter dehors ces maudits virus d'Ebola. Donc l'appropriation. Là, je compte plus sur les relais communautaires, sur les leaders communautaires. Et là, mon message est clair. Respectons toutes les mesures barrières et l'Ebola sera bouté dehors. Merci.
Merci, monsieur le gouverneur.
Merci.
Et c'était notre invité, le général Gabi Kassongo, qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Voilà qui met fin à cette édition du journal, coordonnée et supervisée par Lievin Mwingavubu et mise en onde de main des maîtres par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.